Alors on continue la 12e journée, titulée « Pèlerinage aux sources de l'intelligence chrétienne, Jean le théologien, la Vierge Marie, Cana et les deux premiers signes, Nazareth, les horizons de la vie cachée, et la base de l'idée et la plaine d'Esdrelon ». Alors maintenant nous venons de Cana et nous allons à Nazareth. Alors, de Nazareth, on peut distinguer quelque chose de bon, et vous rappelez la réponse de Philippe déconcerté à Nathanaël, « Viens et vois ». J'ai passé en exergue de cette visite à Nazareth un discours qu'a fait le pape Paul VI lorsqu'il est venu ici en 1964 inaugurer la basilique de Nazareth. Le pape Paul VI, le 5 janvier 1964, a inauguré la fameuse basilique, là, et alors il a fait une homélie. Ici, dit-il, on apprend la méthode qui nous permettra de comprendre qui est le Christ. Ici, on découvre le besoin d'observer le cadre de son séjour parmi vous. Les lieux, le temps, les coutumes, le langage, les pratiques religieuses, tout ce dont Jésus s'est servi pour se révéler au monde. Ici, tout parle, tout a un sens. Ici, on redécouvre la nécessité d'une discipline spirituelle. On rencontre la Vierge Marie. On recommence à acquérir la vraie science de la vie et la sagesse supérieure des vérités divines. Ici, on prend le son de silence. D'abord, il y a diverses homélies avant d'arriver. Que renaisse en nous l'estime du silence, cette admirable et indispensable condition de l'esprit, en nous qui sommes assaillis par tant de clameurs, de fracas, de cris, dans notre vie moderne, bruyante et hypersensibilisée. Oh, silence de Nazareth! Enseignez-nous le recueillement, l'intériorité, la disposition à écouter les bonnes inspirations et les paroles des vrais maîtres. Enseignez-nous le besoin et la valeur des préparations, de l'étude, de la méditation, de la vie personnelle et intérieure, de la prière que Dieu seul voit dans le secret, les valeurs de la vie familiale et puis le travail, qui ne peut être une fin en lui-même et dont la noblesse lui vient des valeurs qui le finalisent. Rappelez-vous la distinction qu'on a faite entre la production et puis la fécondité. Tout a un sens, dit-il ici, une double signification. Nous cherchons la signification plus encore que localisation précise. Une signification extérieure, celle des gens qui se contentent d'étudier, de critiquer le vêtement philologique et historique des livres saints. Cette étude est importante et nécessaire, mais qui s'y arrête demeure dans l'obscurité. Elle peut même susciter l'illusion orgueilleuse du savoir chez ceux qui observent les aspects extérieurs de l'Évangile sans avoir le regard limpide, le cœur humble, l'intention droite et l'âme en prière. L'Évangile ne révèle sa signification intérieure qu'à celui qui se met en accord avec la lumière. Quand on arrive à Nazareth, on commence par aller faire provision de silence chez le père de Foucault. Il y a l'endroit où il a vécu, et puis les sœurs Clarisse ont construit un petit peu plus haut un petit couvent d'une sobriété transparente et limpide. C'est là qu'on célèbre l'Eucharistie, et puis on demande au père de Foucault de retrouver le silence qu'il a goûté vraiment à Nazareth et qui n'est pas si facile de trouver aujourd'hui. Alors paradoxalement, moi, ce qui m'a aidé à vivre à Nazareth, à suivre les conseils du pape Paul VI, à trouver ce qu'il nous invite à chercher, c'est un juif et un protestant. Un juif qui s'appelle Robert Aron. Et je ne saurais trop vous conseiller d'aller chercher dans les bibliothèques un livre qui s'appelle « Les années obscures de Jésus ». Je vous montre comment la culte de Jésus, sa culture est juive. Et rappelez-le-moi, quand on sera arrivé à Jérusalem, là, j'ai des passages très importants sur ce que Robert Aron dit de l'importance de la langue hébraïque, la langue araméenne. Et c'est pas seulement une langue parmi nous, c'est une langue qui restructure l'intelligence pour la rendre plus capable d'aller aussi directement que possible aux richesses de données révélées. Il y a une restructuration de l'intelligence par la langue. Oui. Et puis alors, il y a un protestant qui s'appelle George Adam Smith, qui a, je n'ose pas prononcer en anglais, qui a écrit un livre, malheureusement pas traduit en français, qui s'appelle « La géographie historique de la Terre Sainte ». C'est paru en 1894 et c'était réédité plus de 25 fois. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont devenues anachroniques avec le progrès des sciences archéologiques. Mais alors, c'est un homme qui pige. Et alors, c'est à lui que je dois beaucoup des idées que je donne sur la spiritualité du Jourdain, la spiritualité du Carmel, la spiritualité de l'Hermont. Il dégage la signification de la géographie de cette Terre Sainte, qui a l'air de vouloir crier maintenant au monde entier le message biblique indissociablement ancien et nouveau testament. Tenez, je feuillette quelques fiches que j'ai prises à Adam Smith. Là. Il nous invite à nous promener, ouais, pas seulement à voir les lieux saints, mais nous promener dans ces horizons qui furent pendant 30 ans les horizons de la vie cachée. Bah, Jésus était charpentier, mais il a dû beaucoup se promener. Il n'y a pas beaucoup de comparaisons prises à son métier dans l'Évangile. Et par contre, toute la nature ici de cette basse Galilée au cœur de laquelle nous sommes ressort dans les paraboles. Et alors il fait comme une espèce de table de matière, il a dû se promener. Hein. On a vu les horizons nord de Cana de ce matin, la vallée là, qui va vers la Méditerranée, la vallée de Beit Netofa, où se trouve Cana. Et dans la lumière de l'après-midi, on voit maintenant que le soleil est à l'ouest, la magnifique plaine d'Esdrelon. Nous sommes au sommet d'une colline qui est au milieu. Vous me direz pourquoi est-ce qu'on ne va pas au Tabor? Eh bien, le Tabor, d'abord, c'est pas si facile d'y aller. Et puis, en même temps, quand on est dessus, on ne le voit plus. Et puis, quand on est dessus, on a l'horizon bouché du côté du sud par cette colline où nous sommes. Tandis qu'ici, au centre, on a un horizon beaucoup plus complet. Et si on fait le tour, alors on pourrait se contenter de faire le tour de ces deux sommets-là. On aurait tous les lieux de la plaine d'Israël, qui est une des plus riches en souvenirs bibliques. Et Jésus a dû se promener par ici. Selon les découvertes, Nazareth sera un village obscur et loin de tout. Jésus a passé 30 années de sa vie cachée, complètement cachée. Et là, il dit qu'il faut savoir lire aussi les silences de l'Évangile. Comment s'est passée la jeunesse de Jésus? Quel était son environnement? Et il remarque qu'à l'époque de Jésus, quand on se promenait en Galilée, on n'était jamais loin d'une grande ville populeuse comme Yafia, Tsipori. Les pèlerins souvent braquent leur objectif sur ce qu'ils trouvent de plus pouilleux en pensant qu'ils se rapprochent de l'Évangile. Ben non, il y a toute une civilisation qui a été complètement balayée par qui a connu Jésus. Dès qu'il sortait de son trou, il était au balcon de la ville de Tsipori, qui était la capitale. Là. On ne peut pas faire de Jésus un ignorant. Il faudrait tout ignorer de cette partie de l'Empire romain à l'époque où il vivait. Et alors, le meilleur moyen de se libérer de ce cliché est de venir sur ce piton rocheux qui domine tout le paysage et qu'on a appelé la montagne de la précipitation. C'est là qu'on a localisé l'épisode de Jésus chassé de la synagogue et qu'on veut précipiter. On reviendra sur la scène une autre fois. Et alors il commence par citer à propos du Tabor, un magnifique texte qu'on trouve dans le Deutéronome. Le Tabor que vous voyez là, dans toute sa splendeur, est à la frontière de trois tribus. La tribu de Zabulon, la tribu de Nephtali et puis la tribu d'Issacar. Et alors il y a un texte du Deutéronome chapitre 33, verset 18-19 qui nous suggère les horizons de la vie cachée. Réjouis-toi, Zabulon, dans tes expéditions, et toi, Issacar, dans tes tentes. La montagne où les peuples viennent invoquer, j'ai le texte ici en hébreu, je le traduis, c'est ici qu'ils offrent les sacrifices de succès, ils aspirent à eux l'abondance des mers et les trésors cachés dans les sables. Voyez, le Tabor est la montagne où se rencontrent les caravanes enfin, qui viennent de la côte libanaise, de la bas phénicienne, avec toutes les richesses qu'on peut trouver décrites dans le prophète Ézéchiel, à Tyr et à Sidon. Et puis de l'autre côté arrivent les caravanes qui viennent des profondeurs du désert et qui amènent des denrées exotiques, l'encens d'Aramaout, que sais-je. Alors je reprends ce texte. Réjouis-toi, Zabulon, de tes expéditions. Pas Zabulon habite là-bas sur la côte et il trafique avec les Phéniciens. Et toi, Issacar, dans tes tentes, Issacar, lui, il est sur la route par laquelle arrivent les grandes caravanes des déserts de l'Arabie. Et ils se rencontrent sur cette montagne où ils offrent des sacrifices de succès. Et le Tabor, il y a pas toujours, il y a eu des cultes assez ambivalents, assez ambigus, hein, plutôt idolâtriques. Autrefois, l'industrie, le commerce, tout ça était lié à des cultes plus ou moins idolâtriques. Ils offrent là des sacrifices de succès. Ils aspirent à eux les richesses de la mer, vous voyez, qui arrivent du côté des Phéniciens là-bas, et puis les trésors cachés dans les sables, hein, les denrées exotiques. Et Jésus, quand il se promenait, là, il était au balcon des grandes routes de l'Antiquité. Dès qu'il sortait de ce trou où se trouvait Nazareth, qui n'était encore qu'un tout petit patelin au temps du père de Foucault, alors il se trouvait en bordure de ces grands horizons-là, la vallée de Jisréel. Alors il fait une table des matières ici, bon, on va choisir parce que sans ça on pourrait y passer 2-3 jours à lire tous les récits. Voilà la table des matières que donne Adam Smith, les victoires de Gédéon et de Barak, de Déborah, Madian et Sisara. On a déjà vu Madian, on va voir Sisara maintenant, c'est Barak et Déborah. Les défaites de Saül et Jonathan qui sont morts ici en luttant contre les peuples de la mer. On n'a pas eu le temps de lire l'histoire de Saül, l'élégie de David qui pleure la mort de son ami Jonathan.
et puis la sorcière d'Endor, les batailles du temps des Maccabées, la vigne de Naboth, tiens ça on l'a lu, la vengeance de Jéhu sur Jézabel, on l'a lu aussi, le Carmel et le sacrifice d'Élie, on va le lire, la maison d'Élisée à Shunem, on va le lire. On voit, dit Adam Smith, depuis Galaad, hein, par la trouée de Beth-Shan, là-bas on voit jusqu'aux montagnes de Galaad où affluent les richesses du désert, rappelez-vous ben, le petit Joseph là, qui a été vendu à une caravane qui venait de Galaad avec du baume qu'il exportait en Égypte, jusqu'à la grande mer, la Méditerranée, où les vaisseaux de Tarsis naviguent vers les îles lointaines. On voit à 50 km dans toutes les directions quand il fait beau. On a toute une carte de l'Ancien Testament. Et Jésus, ici, beaucoup de choses s'expliquent de sa vie. Il voyait la route de Jérusalem par la Samarie ou par la Pérée, la vallée du Jourdain, les masses de pèlerins à l'époque des grandes fêtes, à Pâques, à la Pentecôte, à la fête des tentes, à la fête de la dédicace, les caravanes qui de Damas allaient en Égypte ou bien en sens inverse. Et s'il montait sur la bordure nord de la cuvette de Nazareth, comme on était du côté de Cana, là-bas il voyait la route qui allait de Ptolémaïs à Cope, le grand port, jusque dans la Décapole, là-bas, le pays des païens, les caravanes commerciales, les légions, les grands personnages avec leur suite. Et alors, Adam Smith va en conclure que c'est plutôt ici, plutôt qu'à la montagne de la quarantaine qui domine Jéricho, le Djebel Karental, qu'il faudrait lire le récit de la tentation. Enfin, c'est dans ce cadre où Jésus a vécu pendant 30 ans de vie cachée. Son intelligence humaine n'a pas triché avec la condition humaine, elle a fonctionné normalement, et ses options messianiques se sont formées au rythme de ces spectacles qu'il voyait quand il se promenait ici au balcon des grandes routes. Il faudrait situer la dernière tentation de Jésus ici. Le cadre des options messianiques. Oui. Alors il faudrait évoquer ici tout l'évangile, les paraboles. Ben, à mon avis, il faut voir le dessin, bien sûr, mais combien plus se promener en essayant de rentrer dans l'intelligence du Christ, comment il a pris ici ses grandes options messianiques. Quand il parle des soucis de la vie, dans la parabole de la semence, des richesses, la pesanteur de l'âme, les scandales, le fils prodigue qui part en pays lointain, le roi qui va se faire couronner à l'étranger contre lequel on conspire. Où est le vrai trésor, l'œil qui est la lampe du corps, Dieu est l'argent, la providence dont les goïms n'ont pas le sens. Aucune méfiance manichéenne par rapport à la nature, à la richesse, tout cela au contraire, mais une invitation à faire combien plus pour le royaume de Dieu. Regardez comment ils se débrouillent, pas tous ces méchants pour leurs affaires. Vous qui êtes fils de lumière, pourquoi est-ce que vous n'en faites pas encore beaucoup plus? Mettez tout votre dynamisme au service du royaume de Dieu. Aucun pessimisme manichéen, mais une simple invitation à la hiérarchie des valeurs. Quand on a trouvé un trésor, on vend tout pour acheter le trésor. Et puis en même temps, on dirait que quelquefois, il prend ses paraboles dans des récits pas tellement édifiants. C'est pas du tout moralisant, édifiant. Regardez ce fripon là-bas, comment il se débrouille pour s'en tirer. Eh bien vous, fils de lumière, faites-en encore mieux pour le royaume. Le coulage à la cour des rois, les maîtres fantaisistes de leur attitude dans la friponnerie. On dirait que quelquefois, il prend ses paraboles, on dirait aujourd'hui dans les journaux du soir. Faut-il envier les riches, les enfants de bonne famille, les fils prodigues, les riches méchants dont le cœur se recroqueville, qui donnent même pas les miettes de leur table. Et puis les richesses spirituelles, qui peuvent être encore plus dangereuses que les richesses matérielles, parce qu'on s'y arrête. C'est une espèce d'idolâtrie irrémédiable. Faire comme Dieu qui fait lire son soleil sur les méchants comme sur les bons. Se réconcilier, les rois qui partent à la guerre, qui s'assoient avant de bâtir une tour, qui réfléchissent. Le royaume de Dieu qui commence tout doucement, comme un grain de sève dans un rythme de fécondité. Et puis en toutes les comparaisons qui viennent dans les paraboles, le laboureur, le semeur, la moisson, la pluie, le soleil, la vigne, alors ça c'est aussi tout un symbolisme biblique qui surgit. Il était charpentier d'une autre tribu que celle de Zabulon, tribu de Juda, il n'avait pas de terre. Il faudrait penser son métier de charpentier comme on pense les ouvriers du sanctuaire, pour qu'ils reçoivent l'esprit sous cette triple forme de sagesse, de discernement et de connaissance pour concevoir des projets et les exécuter. Vous rappelez les ouvriers de la construction du sanctuaire. Et puis alors cette attention qu'il a aux scènes de la vie courante et puis aux animaux. Et puis alors pas de principe simpliste. Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes, débrouillez-vous. Au fond, on va parler de tout l'évangile, hein. Les renards, les oiseaux, les serpents, les loups, les brebis, les oiseaux, les fleurs des champs.